Nous sommes en compagnie de Jean Louberteau et on parle de Vénus, planète à l'effet de serre extrême. D'ailleurs, cet effet de serre, est-ce qu'il est irréversible? Est-ce que la température sur Vénus ne peut que continuer à augmenter? Quel est le mécanisme qui justifie un tel emballement?
Eh bien, en fait, on pourrait dire que c'est la présence de la vapeur d'eau, disons, qui, combinée avec le gaz carbonique, fait que pratiquement toutes les fenêtres, beaucoup de fenêtres atmosphériques sont bloquées, et donc le rayonnement qui est émis par le sol finit par retomber sur le sol. Alors, il y a une petite contribution supplémentaire des nuages qui font effectivement aussi effet de serre, mais c'est de l'ordre de 10% à peu près. Et alors, on peut se poser la question, imaginons que, par exemple, qu'il y ait eu une éruption volcanique assez récente, qui est donc injecté tout ce dioxyde de soufre, qui est fabriqué des gouttelettes d'acide sulfurique et qui font ces nuages. Peut-être que s'il n'y a plus d'éruption volcanique, ces nuages vont disparaître. Alors qu'est-ce qui va se passer sur Vénus ? Alors, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, effectivement, l'effet de serre va diminuer, mais il y a un autre effet qui va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y aura plus de rayonnement solaire qui va arriver au sol, parce que à présent les nuages réfléchissent énormément de la lumière solaire. Ils réfléchissent à peu près 70 à 75% de la lumière solaire vers l'espace à très haute altitude. Donc tout ça, je dirais, c'est perdu pour le chauffage de la planète. Tant mieux d'ailleurs. Hein. Mais si les nuages disparaissent, eh bien tout ce rayonnement solaire va arriver jusqu'au sol et ça va chauffer plus. Donc il fera encore plus chaud même si les nuages disparaissent. Donc c'est pas la bonne stratégie, disons, pour essayer d'éliminer l'effet de serre. Donc en fait, cet effet de serre, donc, il est finalement très lié au gaz carbonique et à la vapeur d'eau. Alors d'ailleurs, ça nous interpelle, il faut toujours qu'on ait ça à la mémoire quand on parle de l'effet de serre sur Terre, car effectivement, cet effet de serre sur Terre, il est dû à 85-90% à la vapeur d'eau. Et 10 ou 15% au gaz carbonique. Alors, les détracteurs du changement climatique vous disent, mais vous voyez, vous ne comprenez rien. Vous dites que le CO2 augmente un petit peu, et alors que la vapeur d'eau est beaucoup plus importante. Mais c'est parce qu'ils oublient la physique fondamentale. C'est qu'en fait, quand on augmente un petit peu l'effet de serre avec le gaz carbonique sur Terre, ça fait chauffer un petit peu la surface de l'eau. Et cette augmentation de température fait qu'il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc, en fait, quand vous accroissez un petit peu de CO2, eh bien, en fait, vous avez une amplification d'un facteur environ 3 aujourd'hui, qui est due à la présence d'eau liquide. Donc, c'est vraiment le gaz carbonique qui est l'initiateur, mais la vapeur d'eau joue un rôle fondamental dans l'atmosphère de la Terre et également dans l'atmosphère de Vénus.
Alors, je vais vous poser la question sous une autre forme, peut-être. On lit souvent dans la littérature scientifique de vulgarisation que si on mettait la Terre aujourd'hui à la place de Vénus, la température moyenne augmenterait de 20 degrés, ce qui est beaucoup, mais qui n'est pas au niveau des 450 degrés dont vous nous parlez. Donc, que s'est-il passé ?
Oh, alors là, d'abord, je ne connaissais pas ce chiffre, et moi, j'aurais tendance à dire que ça ferait beaucoup plus que ça, parce que si on mettait la Terre beaucoup plus proche du Soleil, eh bien vous auriez l'effet de serre divergent dont on a parlé tout à l'heure. Dans l'effet de serre divergent, la température de l'eau forcément augmenterait pas mal, d'accord ? Donc cette eau, elle se vaporiserait, et la vapeur d'eau est un immense gaz à effet de serre. Et donc vous auriez un effet de serre féroce, et donc la température augmenterait, que finalement ça fait effectivement une boucle de réaction, d'auto-réaction, et finalement toute l'eau va se vaporiser. C'est sans doute ce qui est... S'il y a eu beaucoup d'eau au début de Vénus, franchement, ce scénario d'effet de serre divergent est tout à fait plausible.
Donc, elle ne pouvait que disparaître.
Pratiquement, oui, elle ne pouvait que se vaporiser. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est pourquoi elle s'est échappée. Moi, personnellement, je ne suis pas encore, disons, complètement convaincu de la façon dont une énorme atmosphère de vapeur d'eau, parce que ça aurait fait beaucoup plus que l'atmosphère actuelle, s'échappe. Enfin, bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est clair que toute l'eau se serait vaporisée.
Oui, échapper, ça veut dire que sa proximité au Soleil, encore, il faut relativiser, parce qu'on est à la distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Oui. La distance Vénus-Soleil, c'est 100 millions.
Oui, mais finalement, on reçoit deux fois plus d'énergie par mètre carré. Hein. Donc, il y a... c'est le carré de la distance donc qui joue, et donc on reçoit deux fois plus d'énergie, et deux fois plus d'énergie, ça fait beaucoup, ça fait une grosse différence.
Alors ça fait une grosse différence, et ça veut dire aussi que sans doute l'atmosphère est plus sensible aux éruptions, aux vents solaires. Est-ce qu'il pourrait y avoir eu dans l'histoire de couplet, je veux dire, du Soleil et de Vénus, justement une atmosphère soufflée par sa proximité par le Soleil?
Eh bien, il y a des gens qui effectivement qui disent que si la température, c'est quand le Soleil était plus jeune, en particulier, il pouvait émettre beaucoup plus de rayonnement ultraviolet. Ce rayonnement ultraviolet finit par chauffer la très haute atmosphère, et plus cette très haute atmosphère est chaude, et plus il y a un échappement violent. Donc c'est comme ça qu'on expliquerait une évolution possible, une disparition d'une très grande partie de l'atmosphère. Mais encore faut-il prouver que le Soleil avait beaucoup plus d'ultraviolet. Je ne suis pas absolument convaincu que ce scénario s'est réalisé, car comme le dit Don Hunton, un grand spécialiste des atmosphères, en fait il était extrêmement difficile de se débarrasser d'une atmosphère.
C'est un paradis de personnes qui s'intéressent à l'atmosphère, au climat ou au sol Vénus, mais en conditions extrêmes pour un scientifique.
Oui, ça, je crois que vous l'avez bien noté. Effectivement, c'est un paradis des atmosphéristes, parce que là, on voit des phénomènes atmosphériques tout à fait extraordinaires qu'on voit de façon un peu plus faible sur Terre. Par exemple, la circulation atmosphérique est tout à fait extraordinaire sur Vénus, avec donc l'atmosphère. Alors, on a dit que le solide tournait très lentement, 243 jours, mais par contre, au sommet des nuages, ça tourne en 4 jours, c'est-à-dire à 100 mètres par seconde. Et pourquoi ? C'est ce qu'on appelle, ça tourne dans le même sens que la planète. Alors la planète tourne très lentement dans le sens rétrograde, et l'atmosphère, la haute atmosphère tourne dans le même sens, elle est rétrograde, mais beaucoup, beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on appelle ça la super rotation.
4 jours, c'est rapide. Hein.
Oui, 4 jours, c'est rapide. Et en fait, on n'a pas encore de théorie qui est complètement admise pour expliquer la super rotation. Et ça veut dire que si on n'est pas capable d'avoir, disons, une théorie qui explique la super rotation, ça veut dire qu'on notre connaissance de la physique des atmosphères est loin d'être complète.
Il y a de drôles d'objets, hein, parce que je vois souvent vos collègues qui font des photos du vortex de Vénus, qui est un drôle d'endroit aussi, où il se passe des tas de choses assez spectaculaires d'ailleurs.
Oui, alors vraiment, quand on regarde les images prises par Vénus Express, en particulier par Virtis, on a vraiment l'impression que au pôle sud, mais aussi au pôle nord, on voit cette espèce de vortex, et on dirait que c'est comme dans la cuvette d'un lavabo, il y a du fluide qui coule, et on a l'impression que l'atmosphère va vers le nord, ou vers le sud, vers les pôles, et puis tombe dans un trou, et puis finit par recirculer à plus basse altitude. Mais vraiment, cette impression de maelstrom, là, est tout à fait spectaculaire. Alors, ce qu'on appelle ce vortex, d'ailleurs, il n'est pas du tout stable. C'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, il y a un pôle unique, un seul trou, et puis il y a d'autres moments où il a une forme de dipôle, c'est-à-dire qu'il y a deux endroits, puis il y a d'autres moments où il y a trois pôles. Donc c'est quelque chose de très dynamique, et franchement parlant, ça vaut vraiment la peine d'étudier en détail la circulation d'atmosphère de Vénus. On pourra peut-être comprendre certain nombre de choses qu'on ne comprend pas sur Terre.
Alors, je vois que vous utilisez aussi beaucoup d'astuces, hein. Bon, au fait de la spectroscopie d'atmosphère planétaire, ça c'est plutôt assez classique, parce que vous l'avez déjà fait sur Mars, mais vous utilisez par exemple la proximité du Soleil et des rayons solaires pour regarder en profil de température et peut-être autre chose l'atmosphère. Vous essayez d'utiliser toutes les astuces de cache-cache avec des objets astronomiques pour des informations.
Vous parlez de cette technique d'occultation là, que j'ai beaucoup utilisée dans ma vie et qu'on applique pour la première fois d'ailleurs sur la planète Vénus. Alors en fait, d'une certaine façon, c'est tout bête. Imaginez que vous êtes en orbite autour de la Terre ou de Vénus. Eh bien, vous voyez en permanence, vous êtes sur la sonde spatiale, vous voyez en permanence des étoiles qui se couchent derrière, parce que vous-même vous bougez, donc l'étoile se couche. Si vous prenez un spectre de l'étoile au moment où elle se couche, alors en dehors de, quand elle n'est pas encore couchée, vous voyez son spectre normal, toute la lumière, et puis quand vous la voyez à travers l'atmosphère, eh bien en fait une partie du rayonnement de l'étoile a été absorbée par les composants de l'atmosphère, beaucoup d'ailleurs par les nuages, mais aussi par le gaz carbonique, par le dioxyde de soufre et par d'autres constituants qu'on a pu retrouver. Et sur Vénus Express, on a une expérience qui s'appelle Spica-Soir, où on fait à la fois cette technique d'occultation d'étoiles et aussi d'occultation du Soleil. C'est la première fois qu'on fait effectivement ce genre de mesures autour de Vénus.
Et ça marche bien.
Et ça marche extrêmement bien, oui.
Alors vous vous disiez que les premières observations avaient été réalisées au sol par radar. Est-ce qu'aujourd'hui il existe une étude de Vénus au sol avec des grands télescopes, avec des radars qui est complémentaire du spatial, ou c'est le spatial qui est complémentaire de ça d'ailleurs ?
Et à ma connaissance, on n'utilise pas trop, le radar pour Vénus parce qu'on a d'excellentes cartes de Magellan. Maintenant, les grands problèmes qui pourraient être abordés avec le radar sont résolus, dans le genre la rotation de Vénus, bon, oui. C'est résolu. Par contre, il y a des observatoires, des façons d'observer Vénus dans le domaine des micro-ondes qu'on ne fait pas à bord de Vénus Express, mais qui est très intéressant. Micro-ondes, c'est comme les fours à micro-ondes, c'est le genre de longueur d'onde qu'il y a dans les fours à micro-ondes. En fait, on étudie l'émission propre de l'atmosphère et on s'intéresse à la couche supérieure de l'atmosphère. Et ce qu'il y a d'assez curieux, c'est que dans le genre 70 ou 100 km, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve de la même façon par micro-ondes au sol et par sondage comme Vénus Express. Et puis il y a d'autres choses où on trouve pas du tout la même chose. Alors là, on se gratte la tête et vraiment, on ne comprend pas. Je prends un exemple. Il y avait des mesures en micro-ondes qui montraient que cette vapeur d'eau dans la très haute atmosphère, disons au sommet des nuages, pouvait varier énormément. C'est-à-dire, il y avait une certaine quantité, puis après ça tombait quasiment à zéro, invisible. Eh bien, en fait, nous, avec Vénus Express, on voit pratiquement pas de variation. Une quantité à peu près constante. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est la méthodologie ou alors c'est parce que, en fait, avec Vénus Express, on n'a pas beaucoup de recul. On a peut-être 2 ans de données, mais il est possible que sur Vénus, il se passe des choses avec des grands changements, avec des échelles de temps de l'ordre de plusieurs années.
Pour conclure, Jean-Louis Berthaud, une question peut-être un peu bizarre, mais je ne peux pas ne pas vous la poser, parce que vous y avez déjà répondu à droite à gauche, c'est celle de... y a-t-il eu de la vie sur Vénus ? On pose la question un petit peu partout dans le système solaire. Mars, c'est récurrent, c'est même le fil rouge avec l'eau, encore une fois, mais j'ai vu que la question vous avait été posée quelque part et que vous répondiez que quelques scientifiques pensent que si une vie a pu se développer sur Vénus... Ce qui pourrait en subsister aujourd'hui, expliquez-vous, aurait pu se réfugier dans des gouttelettes d'acide sulfurique sur le modèle de certaines bactéries extrémophiles terrestres. Vous êtes sérieux ?
Disons, oui, je ne fais que répéter les propos de scientifiques sérieux, mais moi, personnellement, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Hein. Je n'y crois pas.
Ouais.
Voilà. Mais effectivement... C'est l'un des grands mystères, c'est combien de temps il faut à la vie pour apparaître sur une planète. Actuellement, vous le savez, la Terre a 4,5 milliards d'années, 4,6. Les indications les plus valables d'existence de la vie, ça remonte à 2,6. Et puis, on pense qu'il y a des indications à 3,6 milliards d'années sur Terre. Mais donc, il aurait fallu 1 milliard d'années, hein, entre le début et 3,7, pour que la vie apparaisse. Bon, donc, c'est quand même énorme, ça. Et sur Vénus, je ne pense pas que l'eau ait pu rester liquide pendant 1 milliard d'années, parce que même s'il y a eu beaucoup d'eau liquide, très rapidement, ça a dû se vaporiser, etc. Donc, ce scénario dans lequel, effectivement, pendant un certain temps, Vénus aurait pu avoir de l'eau liquide, et puis la vie existait, et puis après ça, elle aurait essayé de subsister dans les gouttelettes d'acide sulfurique, bon, je n'y crois pas beaucoup. Mais d'un autre côté, on peut argumenter en disant que le Soleil, au début du système solaire, était moins brillant que ce qu'il est maintenant. Il était 30% moins brillant. Donc, ça, effectivement, peut-être que l'effet de serre divergent n'a pas eu lieu tout de suite au début, mais plus tard. Donc, on peut dire que les options sont ouvertes. Mais franchement parlant, je pense qu'il vaut mieux aller chercher de la vie sur Mars que sur Vénus.
Bon, ça, d'accord. On sait aujourd'hui qu'il y a très peu de planètes de rechange, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, oui.
je crois que c'est Arthur C. Clarke qui avait imaginé quelques astronautes qui se baladaient sur Vénus, qui avait imaginé aussi cet ensemencement de la planète pour essayer de lui redonner des conditions terrestres. Le terraforming de Vénus, ça vous amuse comme idée de science-fiction et pour un scientifique,
ça... disons que ça me paraît très difficile, hein, vous avez vu. Même si on enlève les nuages, bon, en fait, ça va pas résoudre la question. Donc, ça paraît vraiment très difficile. Ça me paraît beaucoup plus facile de faire du terraforming sur Mars, par exemple, une idée que j'ai proposée. Mais enfin, si vous faites un grand trou sur Mars de 40 km de profondeur à peu près, eh bien, tout d'un coup, vous avez toute l'atmosphère qui tombe dans le trou. Et là, vous avez des conditions qui permettent l'eau liquide, au moins au fond du trou. Ouais. Alors, il faut faire un trou avec des pentes pas trop grandes, sinon il n'y aura pas de soleil. Ouais. Mais donc c'est quand même beaucoup plus facile sur Mars, mais c'est quand même fantastiquement plus difficile. Ceci étant, le terraforming, c'est une idée amusante, mais je pense que réellement, il vaut mieux essayer de conserver la planète Terre en bon état de marche. Et c'est pas si facile que ça. Et là, on est confronté d'ailleurs à des problèmes aigus. Et bon, franchement parlant, il est plus raisonnable d'essayer de faire du terraforming sur la Terre que sur Mars.
Merci Jean-Louis Berthaud. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment pour un prochain épisode.
Merci à vous.